je voulais partager avec vous ce que j'aurais voulu comme défi pour ces mois à venir. Et pour introduire ce défi, je voudrais qu'on lise ensemble dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, trois versets, les versets 27 au verset 30, où nous lisons « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. » Revenir juste au précédent, Jaco, le défi que j'entends dire de vous, que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. J'ai envie de dire, je sais, on parle toujours d'unité, je sais. Mais ce texte ici nous rappelle encore à quel point le même esprit, le même combat pour la foi de l'Évangile, pour la foi en l'Évangile, pour l'annonce de l'Évangile. Il faut unité pour cela. Sans unité, nous ne savons pas mener ce combat pour l'Évangile, pour la foi de l'Évangile. Je me souviens d'un film où c'était un film qui parlait du psychanalyste Freud, et on voyait un monsieur qui venait dans un asile psychiatrique. Il était très très effrayé par les mines patibulaires des gens qui s'y trouvaient, les comportements aussi. Et il y avait au milieu du parc là, il y avait un infirmier qui lisait son livre, et alors le visiteur qui avait besoin de renseignements s'approche de lui et lui dit « Vous n'avez pas peur que tous ces gens qui sont autour de vous ne se lèvent, ne se révoltent, vous massacrent là par terre et prennent la fuite ?» Et alors l'infirmier le regarde avec un petit sourire et lui dit « Non, il ne faut pas avoir peur de ça. Vous savez, les lunatiques, ils ne s'unissent jamais. Jamais. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leur trip, mais ils ne s'unissent jamais. Aucun danger. » Parfois, je me demande si dans l'Église, dans les Églises, nous n'avons pas un peu cette tendance à faire un petit peu comme les lunatiques, avoir peur de s'unir, être dans notre vision des choses, dans notre trip à nous, mais pas trop d'unité. Est-ce qu'on pourrait pas dire que parfois nous sommes comme les lunatiques d'un asile psychiatrique? Je ne sais pas. Je pense que aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde veut son indépendance, tout le monde peut faire comme il a envie, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vous avez entendu ce matin, si j'ai bien compris parce que j'étais encore un peu endormi, mais il semblerait que l'Écosse a retrouvé son indépendance. L'Écosse est à nouveau indépendante. Je me demande, quel État, quelle région, quelle ville, dans quelques années, va encore pouvoir être dirigée par une autorité? Sincèrement, je me demande. Aujourd'hui, on conteste tout. On est contre tout. On discute tout. Vous avez entendu, hein, il n'y a pas encore une seule mesure qui a été prise en Belgique, mais déjà tout le monde dit, si jamais on touche à ça, c'est la fin du pays. Si jamais on touche à ça, c'est les grèves toute la journée. Si jamais on fait ceci, je pense que, aujourd'hui, nous sommes rarement contents. Nous sommes toujours revendicatifs de quelque chose. nous sommes toujours en train de juger quelque chose, nous sommes toujours en désaccord avec quelque chose, et je pense que dans l'Église, c'est un peu la même chose. Nous sommes les mêmes personnes, nous avons tendance, bien sûr, à amener dans l'Église ce climat, ce type de comportement. Mais les uns et les autres, vous savez, vous avez assisté à des situations d'Église où des petites choses ont entraîné des cassures, ont entraîné des divisions, ont entraîné des Églises qui ne se sont plus jamais relevées. Je sais qu'on parle beaucoup d'unité, je parle souvent d'unité, sans unité, pas de possibilité d'atteindre cet objectif pour la foi de l'Évangile, dans ma vie, dans votre vie et au dehors de l'Église. Comment faire pour l'unité? Comment faire pour bâtir l'unité dans l'Église? Je vous invite à lire un autre texte, un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens que Paul a écrit à l'Église d'Éphèse, dans le chapitre 4, des versets 1 à 6. Je trouve ce texte remarquable parce que, en 6 versets, on a les clés de l'unité. On sait pourquoi l'Église est unie, on sait que l'Église doit être unie, et on sait comment bâtir l'unité. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. L'unité dans l'Église, mes amis, c'est pas un choix, c'est pas une option, c'est pas une possibilité. C'est un ordre. L'Église doit être unie. Et le texte que nous venons de lire nous dit pourquoi l'Église doit être unie. Parce que son essence, son fondement, tout n'est qu'unité en elle. Vous avez vu, il y a un seul corps. Vous savez que, au moment de la conversion, nous avons reçu, comme prémisse de la vie à venir, l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Mais l'Esprit de Dieu, il est dans le corps global, dans l'Église, corps du Christ. Il y a un seul esprit qui anime un seul corps et qui anime les pierres vivantes que nous sommes qui constituons ce corps. Il y a un seul esprit. Nous sommes liés à Dieu par un seul esprit. Il y a un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous connaissez ce texte qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Seigneur, nous a dit le texte que nous venons de lire. Nous sommes liés au seul Sauveur. Il y a un seul baptême, dit le texte que nous venons de lire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre baptême que de passer de la mort à la vie en Jésus-Christ, que de passer du péché à la purification qu'en Jésus-Christ. Il y a une seule foi, ça veut dire qu'il y a une seule Bible, il y a une seule parole de Dieu, il y a une seule autorité de Dieu, une seule foi. Et il y a, nous dit le texte que nous venons de lire, un seul Père, un Père unique, qui est le Père de tous ceux qui sont ici. Nous sommes unis à Dieu, le Père unique, par filiation directe. Nous sommes frères et sœurs du Père unique. Ainsi donc, ce texte nous dit que comme il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu le Père, et que nous y avons eu accès par un seul baptême et une seule foi, nous avons devoir d'unité. Ce seul esprit, ce seul médiateur, ce seul fils, ce seul père sont unis en plus en une et seule et même personne. Père, fils, esprit, en un seul Dieu. Nous avons devoir d'unité. Ce n'est pas un choix. Et c'est pour ça que la prière sacerdotale de Jésus-Christ est tellement précieuse. C'est pour ça qu'il dit « Je te prie afin qu'il soit un comme nous sommes un et que ainsi le monde voit ». C'est pour ça aussi que l'Église primitive, l'Église d'avant l'Église politisée, l'Église primitive, celle de Jésus-Christ au commencement. Relisez ces textes dans le chapitre 4 du livre des Actes. Vous reverrez comment vivait l'Église primitive. Un dans la prière, un dans le partage du pain et du vin, un dans la méditation, un dans la louange, un dans les biens qu'ils mettaient en commun. Unité. C'est un devoir de l'Église. Nous avons devoir d'unité. Mais, quand nous lisons des textes comme ceux qui s'adressent à la première Église aux Corinthiens, moi j'aime ces textes parce que je pense que, bon, on ne va pas se retrouver dans notre communauté, dans tout ce qui se trouve dans ce texte, bien sûr. Mais je trouve quand même qu'il y a des éléments précis qui se trouvent dans cette remarque qui est faite à l'Église de Corinthe et que je peux retrouver dans ma communauté, que je peux retrouver dans ma manière de vivre la communauté. Comment vivre l'unité dans une Église comme une Église comme Corinthe? Comment unir des gens que tout sépare? À Corinthe, il y a des gens très riches et des gens très pauvres. Comment on unit ça? À Corinthe, il y a des intellectuels, des Grecs, qui ont besoin de démonstrations, de textes qui démontrent et qui prouvent. Et il y a à côté des Juifs, qui eux veulent des miracles. Comment est-ce qu'on réunit dans une même communauté des frères et sœurs qui, les uns, veulent des raisonnements constructifs, qui démontrent, qui appuient leur foi sur des arguments, et des autres qui veulent des miracles? Dans l'église de Corinthe, il y a des gens qui ont tellement à cœur de vivre le Seigneur qu'ils vivent un ascétisme rigoureux. Ils se touchent même plus entre hommes et femmes. Et puis, il y en a des autres qui ont même des relations incestueuses. Bon, il faut pas mêler dans l'église et le péché et la vie de chrétien. C'est pas ce que je dis. Je dis, comment est-ce qu'on peut réunir des pôles aussi divergents? Dans l'église de Corinthe, il y a des forts et des faibles. Comment est-ce qu'on réunit les forts et les faibles? Ça, c'est dans toutes les églises. Je crois que je ne connais pas une seule église où il n'y a pas un problème avec les forts et les faibles. Comment est-ce qu'on réunit les bons chrétiens et les chrétiens médiocres? Hein? Comment on fait ça? Dans l'église de Corinthe, il y a ceux qui sont toujours d'accord avec les paroles d'Apollos et les autres qui sont toujours d'accord avec les paroles de Paul. Oh. Comment est-ce qu'on fait ça pour réunir dans les églises les gens qui sont toujours d'accord avec celui-là, pas avec celui-là, ou avec celui-là, et pas avec celui-là? Comment est-ce qu'on fait? Je pense d'abord que il y a quelque chose qui m'a impressionné. Quelqu'un avait repris ça il n'y a pas tellement longtemps. Excusez-moi si vous l'avez entendu, vous aussi, il n'y a pas tellement longtemps. Tant mieux, après tout. Je trouve que, ici, derrière, on devrait avoir une grande photo, ou là, au plafond, on devrait avoir une grande photo qui nous montre une formation d'oies qui sont en vol. Moi, je me souviens, quand j'ai fait une formation, au moment de devenir ancien, on avait été conduit par un pasteur qui nous avait dit beaucoup de choses et il nous avait expliqué la vision de la vie de l'Église avec le vol des oies. Et j'ai trouvé toujours ça extraordinaire. Je me suis toujours dit, si nous pouvions avoir un petit peu de jugeote comme les oies, j'aimerais bien avoir moi ça en permanence devant mes yeux. Le vol des oies. Ça, c'est une image que Dieu nous donne à travers la création. Bien sûr, il nous parle aussi à des humains et pas à des oiseaux. Mais, vous avez entendu ces choses. Dans une formation d'oies, chaque oie qui vole fait un déplacement d'air pour la suivante, qui lui fait faire un effort nettement moins douloureux. On a calculé que le fait que les oies volent en formation, elles volent 71% plus loin que si elle volait toute seule. Une oie toute seule fait 100 mètres, et dans le groupe, avec le même effort, elle fait 171 mètres. Mince! Si on pouvait avoir un petit peu de jugeote pour comprendre que si nous voulons atteindre l'objectif, le combat pour l'Évangile dans ma vie, dans ta vie, le combat pour l'Évangile au dehors, Si nous pouvions avoir un peu de jugeote et nous rendre compte que c'est un combat qui se mène ensemble. Je voudrais faire une remarque. Les oies, quand elles volent comme ça, c'est pour leur objectif. C'est pour aller là-bas, au lieu de nidation, pondre, faire leur bébé, et puis revenir. On s'en fout qu'entre-temps, papa oua mange dans cette mare à canards là-bas, ou que maman oua, elle aime bien d'aller se baigner dans cette flaque qu'elle a. On s'en fout que les petits bébés oua, ils ont tel prénom ou telle allure. On s'en fout qu'on les lave 2 fois par jour, ou qu'on les lave 3 fois par jour. On s'en fout de tout ça. Ce qui importe pour les oies, c'est leur objectif. Unir leurs forces quand il faut aller là-bas, à l'autre bout du monde, pour aller donner naissance à leur progéniture. Le reste, on s'en fout. Si on pouvait avoir un petit peu la jugeote comme des oies, mes amis. Une oie, dès qu'elle quitte la formation, elle se ramasse une force de vent dans la figure, tellement qu'elle a tout de suite compris qu'elle est bête de faire ça. Qu'elle est bête d'aller par elle-même. Et elle revient dans le groupe, c'est là qu'est sa place. Elle sait que si elle veut avancer efficacement, sa place est là, avec les autres. Elle le sait. Vous savez, derrière, il y a les oies qui crient tout le temps. Elles ne sont pas derrière avec des pierres pour jeter des pierres sur ceux qui sont devant ou pour dire « on va pas dans la bonne direction, on ferait mieux de voler plus haut, on ferait mieux de voler plus bas, on ferait mieux de voler dans l'autre sens. » Elles crient pour encourager ceux qui sont à la tête et qui font l'effort principal dans le groupe des oies. Je parle dans les groupes des oies. Celles qui sont à la tête font l'effort principal dans le groupe des oies. Et chose remarquable, quand une oie là-bas est fatiguée, là-bas devant, directement les autres, elles l'ont à l'œil. Elles regardent, elles surveillent. Ouh, elles fatiguent. Hop, on prend sa place. Si nous pouvions avoir un peu de jugeote comme les oies, de voir que quand il y a un travail qui est trop lourd pour quelqu'un, qui devient trop pénible pour quelqu'un, qu'on puisse l'aider, lui donner un coup de main, prendre sa place pendant un temps, pendant un moment. Quand une de ces oies commence à être malade, qu'elle est fragilisée, qu'elle est blessée, elle se laisse tomber. Deux l'accompagnent. Et vont l'accompagner jusque dans sa mort s'il faut, ou jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Et puis, ils reprendront un vol suivant avec les autres. Moi, j'ai assisté à ça, un pigeon qui tenait sa femelle morte en dessous de son aile, de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, à un endroit où toutes les minutes, il y avait 2-3 personnes qui passaient à 30 centimètres de lui. Ses yeux étaient écarquillés, exorbités, il était terrorisé, mais jamais il n'a lâché l'aile qu'il avait sur ce pigeon. J'ai pleuré. À la fin de la journée, j'ai pleuré, comme un bébé. J'ai raconté ça à un ami qui connaissait très bien les oiseaux. Il a éclaté de rire, il m'a dit, « Mais ça, c'est l'instinct! C'est l'instinct, ça !» Je me suis dit, « Dommage que nous n'avons pas un peu plus d'instinct, alors. » La parole de Dieu nous explique aussi comment il faut faire pour bâtir l'unité. Simple et compliqué. D'abord, 3 règles à respecter. La première, on l'a lue, en vous efforçant de conserver je me suis perdu dans ma ligne, moi. La vocation qui vous a été adressée, marchez de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Primo, en toute humilité. Humilité. Vous savez bien ce que c'est l'humilité. On a aussi déjà souvent parlé. L'humilité, c'est pas être un paillasson sur lequel tout le monde frotte ses pieds. Dire « moi je sais rien faire, je suis qu'une larve, hein, rien du tout ». C'est pas ça l'humilité. L'apôtre Paul dit qu'il a fait son ministère avec humilité. Vous avez vu ce qu'a fait l'apôtre Paul ? Ben il dit « moi j'ai travaillé avec humilité ». Et vous savez quel est l'homme le plus humble de toute la Bible ? Vous connaissez l'homme le plus humble de toute la Bible ? D'ailleurs c'est l'homme le plus humble de toute la terre. Vous le connaissez ? C'est Moïse. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, au verset 3, il est dit qu'il n'y a pas un homme plus humble que Moïse. Vous avez vu ce qu'a fait Moïse ? Vous avez vu sa vie ? Eh bien, il n'y avait pas d'homme plus humble que lui. Il a conduit un peuple entier dans des... Mais il n'y avait pas un homme plus humble que lui. Vous vous rendez compte ? L'humilité, c'est pas être un paillasson, c'est pas ne rien faire, c'est pas être quelqu'un qui n'ose pas bouger. L'humilité, c'est de ne pas avoir une trop haute estime de soi. L'humilité, c'est de ne pas faire les choses de manière à ce que
pas savoir que c'est moi qui l'a fait. C'est quand même remarquable, non? L'humilité, c'est avoir le regard sur les autres en sachant considérer les autres à leur juste place en fonction de leur capacité et leur performance à eux. L'humilité, c'est savoir être devant le Seigneur à se dire
« Ouais, ok, mais de toute façon, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Et je sais que toi, tu élèves celui qui doit être élevé. » C'est ça l'humilité. Deuxième élément. Peut-être, vous pouvez vous imaginer, les amis, dans une église comme la nôtre, si personne n'avait d'humilité. Si tout le monde était certain que son idée était la bonne, son choix était le bon, son interprétation était la bonne, sa compréhension était la bonne. Vous vous rendez compte comment on vivrait? C'est impossible. On peut tous s'en aller, on peut tous rentrer chez nous. Humilité pour bâtir l'unité. Deuxième mot qui est utilisé ici, la douceur. La douceur. Jésus se définit comme étant humble et doux de cœur. Vous avez vu ce que Jésus a fait? Mais il a toujours fait avec douceur. Et nous savons ce que ça veut dire. Nous savons comment Jésus s'est arrêté pour écouter. Comment Jésus a pleuré sur des situations. Comment Jésus a eu de la compassion dans des situations particulières. Comment Jésus a écouté. Comment Jésus a répondu. Douceur. On a évoqué la toute-puissance et la toute-grandeur de Dieu ce matin. Vous vous rendez compte si Jésus avait laissé s'exprimer un tout petit peu, ce qu'il évoque d'ailleurs devant Ponce Pilate. Mais moi, j'ai des myriades d'anges là, qui sont prêts à venir directement et à tout anéantir ici. Il le dit là. Mais vous rendez compte, si Jésus avait laissé s'exprimer la puissance de Dieu au moment, il a laissé s'exprimer la puissance de Dieu, mais d'une autre manière. Mais s'il avait laissé s'exprimer la puissance de Dieu au moment où il est cloué sur la croix, au moment où il est fouetté, au moment où on lui crache dessus, vous imaginez ce qu'il aurait pu arriver à ces personnes qui le touchaient, qui l'approchaient? La douceur. Vous le savez bien, si, ensemble, mon regard peut souvent être un regard de douceur, si ma bouche, elle vous donne des paroles de douceur, si mon sourire est un sourire de douceur, vous savez bien que c'est tellement constructif de l'unité, ça. Être avec des frères et des sœurs qui sont doux, doux dans leurs paroles, doux dans leur manière d'être, doux dans les gestes qu'ils posent, doux dans leur sourire, dans leur rayonnement, dans leur regard. Bâtir l'unité, ça se fait avec l'humilité, ça se fait avec la douceur. Et ça se fait, troisième expression qui est utilisée ici dans le texte que nous avons lu, ça se fait avec de la patience. De la patience. La patience, c'est un mot qu'on traduit à l'origine dans le mot patience, il y a deux mots. Loin de et fureur. La patience, ça veut dire loin de la fureur. Je parle ici de la patience relationnelle. Je ne parle pas de la patience, on sait que quand on sème les graines, il va falloir autant de temps pour qu'elles germent, ou bien on sait que quand un bébé est né, ben, il ne peut pas marcher, il va d'abord devoir se mettre il va d'abord devoir s'asseoir, il va devoir se mettre à quatre pattes, puis il va devoir se mettre sur ses deux jambes. On ne parle pas de ce processus de patience-là, je parle de la patience relationnelle. Dans la patience relationnelle, le mot peut être traduit par « loin de la fureur ». En fait, c'est pratiquement la même chose que les qualificatifs qui sont donnés à Dieu quand on dit que Dieu est un Dieu compatissant et lent à la colère. C'est ça. Lent à la colère. On pourrait traduire patience par lent à la colère. Alors vous avez bien compris dans nos relations d'église combien la patience est précieuse. J'ai vu sur Internet l'autre jour, il y avait un truc qui apparaissait, c'était la violence au volant. Ah, c'était ahurissant. Ah, c'était toute une série de scènes comme ça. On voit des gars, ils arrêtent leur voiture en plein milieu d'une route où il y a 4-5 bandes, ils s'en foutent, ils n'en ont rien à faire. Ils vont à la voiture de l'autre, ils lui ouvrent sa portière, ils commencent à se battre tous les deux. Loin de la fureur. Hein. Si dans l'église, les situations qui me frappent, qui me blessent, qui me touchent, je peux réagir de différentes manières, mais manquer de patience, c'est prendre ma main et avoir envie de réagir. Bien sûr, dans l'Église, on ne va pas faire ça, mais c'est la même chose verbalement. Je peux très bien aussi réagir du tac au tac, en direct et encore plus fort à ce que tu viens de me dire ou à ce que tu as fait l'autre jour. Nous sommes obligés dans l'Église, si nous voulons maintenir l'unité, d'avoir cet esprit de patience qui laisse loin de nous la vengeance, qui laisse loin de nous la réaction avec colère. Dans l'Église, parfois, on a même des manières subtiles, spirituelles, de manquer de patience. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on peut vous dire « Tu m'as fait beaucoup de mal l'autre fois, mais je te pardonne. » Première nouvelle, vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Hein? Vous savez même pas ce que vous avez fait. Mais vous avez fait beaucoup de mal et on vous pardonne. Ça, c'est aussi une manière subtile et spirituelle de manquer de patience. L'histoire est réglée. Je te l'ai dit. Tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Parce que moi, je suis un bon chrétien. Il y a plusieurs manières de manquer de patience. Le texte ici nous dit, si nous voulons bâtir l'unité, il nous faudrait en grand aussi, peut-être à côté du vol des oiseaux, des oies, il nous faudrait ces trois expressions. Il nous faudrait humilité, douceur et patience. Et puis, c'est souder ces trois éléments par deux verbes. On cite aussi souvent ça. Supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est l'amour qui vous amène à ça. Parce que sans amour, on ne sait pas supporter. Et pourtant, on est amené à supporter, c'est difficile. C'est vraiment un vilain mot, hein. La relation que je vais avoir avec toi, la relation que je vais avoir avec Gérald, je dois le supporter. Et il doit me supporter. C'est vraiment un vilain mot, hein. C'est pas « réjouissez-vous ensemble », c'est non. Supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il y a un fondement, l'amour, qui vous oblige à vous supporter les uns les autres. Mais c'est pas un très beau mot, hein. C'est pas un très beau mot, hein. Et puis le deuxième n'est pas mieux, on a lu dans le texte. Efforcez-vous par le lien de la paix. C'est la paix, le maintien de la paix, le désir de maintenir la paix et la paix qui existe entre vous qui doit vous pousser à vous efforcer. Efforcez-vous. C'est dur aussi, hein. C'est pas un beau mot non plus, hein. On est mieux quand tout baigne. Quand ça se passe bien, parce que moi je suis ami avec celui-là, ami avec celle-là, et là c'est bien, on est bien ensemble, et là c'est chouette. Mais non, il y a le « efforcez-vous ». Efforcez-vous pour maintenir la paix et par la paix. Efforcez-vous. Je voudrais terminer avec encore une remarque. Peut-être aussi un truc qu'on devrait afficher là-bas sur le mur, me semble-t-il. C'est que souvent, j'ai remarqué que quand on parle d'unité dans une église, très très vite, ça dérape sur uniformité. Souvent, pour nous, il n'y a pas beaucoup de séparation entre unité et uniformité. Alors qu'il n'y a aucun rapport entre l'unité et l'uniformité. Mais souvent, dans l'Église, nous aimons que ça, c'est quand même pas une tenue convenable. Faudrait quand même être habillé autrement. Ça, c'est pas une manière de parler convenable. Faudrait quand même parler autrement. Ça, c'est quand même pas une bonne façon de prier. Faudrait quand même prier autrement. Non. L'unité n'a rien à voir avec l'uniformité. En fait, ce désir d'uniformité, mes amis, ça casse tout. Chaque fois que vous voulez les uns les autres, ou que je veux que quelqu'un d'autre soit habillé différemment, parle différemment, prie différemment, vive différemment, se lave différemment, je sais pas moi, n'importe quoi différemment. Chaque fois que vous voulez ça, vous êtes des semeurs de division. Je suis un semeur de division. Parce que l'unité, ça passe par la complémentarité.
Ça passe par cette richesse extraordinaire de mettre ensemble nos diversités pour faire quelque chose de bien, atteindre l'objectif.
Notre complémentarité et notre diversité est fondamentale pour être là, dans cet objectif. Unis pour la foi en Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. On raconte une histoire, c'est une bête histoire. C'est une bête histoire, mais je l'aime bien parce que souvent elle me rappelle à l'ordre. Vous avez sans doute aussi déjà entendu cette histoire. Ce sont des animaux de la forêt qui se réunissent parce qu'ils ont un projet commun et ils veulent faire quelque chose de grand, comme par exemple la propagation de l'évangile à leur manière, je ne sais pas. Mais ces animaux se réunissent et bon, comme ils sont différents, ben, il y a un canard, il y a un lièvre, il y a un aigle, il y a un écureuil et d'autres. Et comme ils veulent faire une équipe soudée pour arriver à leur objectif, ils veulent quelque chose de vraiment uni. Mais dans leur tête, pour être unis, il faut quand même se ressembler. Alors, il y a le canard qui dit au lièvre, c'est bien, tu cours bien. Mais moi, je sais nager. Toi, tu nages pas. Ce serait quand même bien que tu nages un petit peu comme moi. Et puis, il y a l'aigle qui dit à l'écureuil, c'est bien, tu grimpes dans les arbres à toute vitesse. Moi aussi, je monte en l'air. Moi, je vole. Ce serait quand même bien que tu voles un petit peu comme moi. Et comme ça, chacun voudrait une équipe bien unie où tout le monde se ressemble bien. Où tu fais bien les choses comme moi. Tu vois, tu fais bien les choses comme moi. Parce que quand même, moi je cours bien. À toi de courir. Je nage bien. À toi de nager. Et alors arrive ce que devait arriver, évidemment. Vous vous rendez bien compte que le canard, lorsqu'il a dû commencer à courir comme le lièvre, il a essayé un petit peu, il s'est attrapé des pieds comme des poteaux, et quand il est retourné dans l'eau, il ne savait même plus nager. Ah oui, forcément. Alors quand on a dit à l'écureuil, écoute, toi qui sautes comme ça de branche en branche, tu sautes bien 10 branches, tu pourrais pas faire un petit effort pour un petit peu voler comme moi, non? C'est pas possible ça? Alors l'écureuil s'est dit, c'est vrai, après tout, moi je saute quand même de branche en branche, pourquoi pas faire le grand plongeon finalement? Ben il a fait le grand plongeon et il s'est écrasé la tête par terre. Et lorsque le lièvre, on lui a dit, tu ferais bien un peu nager comme moi, hein, ce serait quand même un signe d'unité, ça, que tu fasses un peu comme moi et que tu nages comme moi. Il s'est mis à l'eau, il a nagé, il s'est épuisé, et quand on lui a dit, maintenant vas-y, cours, il était tellement crevé qu'il ne savait plus courir, évidemment. L'unité, ça passe par tout le contraire. Nous avons des capacités différentes, elles nous ont été données par l'Esprit de Dieu, et nous sommes à une place particulière, et c'est la complémentarité de ces choses qui fait que nous allons atteindre notre objectif. Jamais la similitude de ces choses, pardon. C'est la complémentarité de ces choses qui va nous faire atteindre notre objectif. Et s'il y a un lièvre dans cette équipe ici, il faudrait tout mettre en œuvre pour le faire courir encore plus vite. Et lui dire, non, c'est pas parce que toi tu cours vite et que le canard il marche lentement que tu vas ralentir ta course et attendre le canard. Toi t'es fait pour courir, tu cours, tu vas en éclaireur, tout nous déploie. Et s'il y en a un qui sait monter dans les arbres, vous avez qu'à lui donner la confiance, monter dans les arbres pour aller chercher les fruits, pour nourrir les autres. Vous n'avez qu'à lui dire, toi ton rôle c'est monter dans les arbres, donc tu montes le plus haut que tu peux, mais c'est ce que tu fais. Parce que c'est ce que tu fais de mieux. Et toi, le canard, si tu sais nager, eh bien, tu continues de nager. Parce qu'on a peut-être besoin de savoir ce qu'il y a dans l'eau. Et toi, tu vas aller nous dire ce qu'il y a dans l'eau. C'est ta tâche, c'est toi de le faire. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'unité et la complémentarité. C'est pour ça que je disais que, à côté de ces trois mots, humilité, douceur, patience, avec les deux verbes, efforcez-vous, supportez-vous, qui devrait être affiché là-bas, ce serait bien d'avoir le vol des oies, et ce serait bien aussi d'avoir un petit canard, un petit lapin, un petit écureuil, afin de se rappeler chacun à sa place, et que chacun performe dans la tâche et le don qu'il a reçu. Alors, nous avancerons. Mes amis, je sais, on parle beaucoup, tout le temps, d'unité. Je crois, pour ma part, que ce serait vraiment un défi si nous pouvions relever le défi de l'unité. Je sais, Il y a les paroles et ce qui se fait. Je sais, je sais. Rien n'empêche de commencer aujourd'hui, maintenant, et d'essayer de nouveau, avec des principes tels que ceux-là, de travailler à l'unité. Si nous nous concentrons sur les dons que nous avons, si nous nous abstenons des activités qui ne correspondent pas à nos dons, je suis convaincu que nous serons une bénédiction pour Dieu. L'Église peut être une bénédiction pour Dieu. Toi, si ta place est là, fais-le à fond. Et ne t'attends pas que les autres fassent comme toi. Fais-le à fond et laisse les autres faire ce qu'ils font, eux aussi à fond. Si nous avons tout le temps des attentes des uns et des autres, nous ne créons pas l'unité, nous travaillons à la division. Nous allons faire des frustrations dans l'Église, nous allons avoir un esprit de médiocrité dans l'Église et nous n'atteindrons pas l'objectif que nous devons atteindre. Alors que le Seigneur nous aide dans cette voie. Amen.